matin avec Jésus. Je me lève en souriant, des soucis je n'en ai plus. Avec Jésus je vais de l'avant. La vie c'est si merveilleux, je suis tous les jours heureux. La prospérité est là, la santé marche avec moi. Son espoir est dans mon cœur, je connais le vrai. Je n'en ai plus, avec Jésus je vais de l'avant. La vie c'est si merveilleux, je suis tous les jours heureux. La prospérité est là, la santé est avec moi. Son espoir est dans mon cœur, je connais le vrai bonheur. Lève-toi pour
ce matin. Je pense que nous avons déjà tous prié pour notre sœur Edith, pour Alain qui est pas là aussi, qui travaille en ce moment, pour tous nos frères et sœurs qui sont à gauche à droite. Hein, c'est les fêtes de Noël bientôt. Donc voilà, il y a du travail à gauche à droite. Que Dieu vous bénisse, vous qui écoutez et qui n'êtes pas là ce matin. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles maintenant. Enfin, vous pouvez la laisser fermer parce que je vais l'ouvrir dans la parole vivante d'Alfred Kuhn. Donc, si vous essayez de suivre avec moi dans votre Bible, vous n'allez rien comprendre parce que vous allez dire, c'est très différent. 1 Pierre 1, 2. Dieu, notre Père, vous a choisi parce qu'il vous connaissait déjà d'avance. Il a pris garde à vous et vous a destiné, conformément à son plan, à être transformé par l'Esprit Saint, afin d'être capable d'obéir à Jésus-Christ et d'être purifié par l'aspersion de son sang. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Ça ne vous gêne pas, les frères burkinabés, là-bas, que j'ai enlevé ma veste, hein? Parce que, vous savez, quand il fait trop chaud, dans votre pays, là-bas, il fait tellement chaud que je ne vais jamais avec une veste, sauf les 5 premières minutes pendant que je prêche, et après je l'enlève, parce que c'est insupportable. C'est trop. Et puis là, ce matin, notre frère Philippe a fait un bon feu là-bas au fond de la chapelle. Et on se croirait au Burkina, là, en haut. Sauf c'est juste les pieds qui ont un peu froid encore. Parce que ce matin, je vous dis, à vous qui êtes au Burkina, ce matin, on a dû gratter les pare-brises, parce qu'il y avait de la glace dessus. Vous ne connaissez pas ça, hein? Vous avez de la chance, c'est bien. Nous, on connaît, c'est pas rigolo. Et puis vos frères africains qui vivent ici en France, hein, ben, ils rigolent pas en ce moment. Hein, notre frère là, ils rigolent pas. Le froid, c'est froid. Hein. Je crois que c'est encore plus froid pour vous que pour nous. Parce qu'on a été créés pour vivre ici. Et quand nous, on vit au Burkina, c'est l'horreur. Et quand vous vivez en France, c'est l'horreur. Donc voilà, je pense que Dieu a bien fait les choses. Alors on va un petit moment en France, on va un petit moment au Burkina, mais pour y vivre. Moi, je pourrais pas en tout cas vivre là-bas. Il fait vraiment trop chaud. Si de temps en temps il faisait frais, mais non, même pas. Alors là-bas, ils disent, par exemple, quand il fait 26, 25 degrés, ils disent il fait froid. Mais nous, c'est quand il fait chaud qu'il fait ce temps-là. Hein? Vous voyez comment c'est différent. Bien, ces derniers temps, je vous parlais de voir toute chose du point de vue de Dieu. J'ai fait déjà 4 ou 5 prédications là-dessus. Et si vous n'avez pas écouté ces quatre ou cinq prédications, il y a des choses qui vont vous passer un peu dessus, mais vous pouvez les retrouver sur Internet, sur Révélation Bible, pour pouvoir faire un cours de rattrapage. Une aimable répétition, comme disait notre frère Renaud. Il faut que nous regardions du point de vue de Dieu et non pas du point de vue humain. En effet, puisque on sait que tout a été créé par lui et pour lui, et non pas par lui pour nous. C'est très différent. La grande question, elle est donc, mais quelle était sa grande, sa suprême intention quand il a créé tout ça? Qu'est-ce que c'était son idée? Là, on vient de lire, qui nous a connus à l'avance, qui nous a destinés, qui nous a prédestinés. Bon, il avait des plans, il avait des idées conformément à son plan. Mais quelle était sa suprême intention? L'homme a cette fâcheuse tendance à croire qu'il est le centre de l'univers. Et même dans le domaine religieux, l'homme garde des conceptions et des méthodes qui sont déformées à cause de ce point de vue-là qui est faux. C'est faux. Il faut que nous ayons maintenant, Dieu veut que nous réformions notre vue. L'Église a tort quand elle présente Dieu en nous faisant croire que tout ce qu'il fait, il le fait pour nous. Pour notre bien-être, pour notre avantage, pour notre guérison, pour notre protection, pour notre bénédiction, pour notre bonheur. Bon, c'est vrai en partie, mais ils se fourvoient en organisant tout leur programme autour de cette pauvre vision. Et puis ils enseignent ça, et les gens de ce monde, qui ne sont pas forcément croyants, ils entendent cela, et ça les trouble, vous allez voir pourquoi. Selon eux, rien n'a plus de valeur que l'humanité, que l'homme, la femme, les enfants, aux yeux de ces religieux. Alors, c'est pourquoi beaucoup sont choqués quand il arrive des catastrophes, quand il arrive des grands malheurs, ou même des petits malheurs. Il y en a qui disent, mais s'il y avait un Dieu, c'est pas possible. Parce qu'ils ont eu une mauvaise image de qui est Dieu et de quelle est son intention première. C'est parce que l'Église laisse croire que Dieu élabore tous ses plans en faveur de l'humanité. Alors, il y en a qui réfléchissent, et ceux qui réfléchissent, ils se disent qu'alors, ben, Dieu n'est pas si bon qu'on veut essayer de nous le faire croire, ou alors même, il y en a qui vont dire, Dieu est mort, puisque tout marche de travers, c'est épouvantable. Mais mes frères et sœurs, c'est épouvantable. Moi, je vous parlais tout à l'heure du Burkina, du chaud et du froid, mais tout ça, c'est des détails à côté de l'horreur qu'il peut y avoir sur cette terre, aussi bien chez nous que chez eux là-bas. Nous, notre misère ici, on y est habitué. Mais allez voir là-bas, mais c'est effrayant. C'est effrayant. Comment un Dieu bon peut-il permettre telle chose, laisser faire de telles choses? Ça paraît. Ceux qui réfléchissent disent, écoutez, il dort, je ne sais pas, il faut faire. Il est peut-être mort même. Parce que ce n'est pas possible. Par ces quelques messages donc, que je vous ai donnés ces derniers temps, là, que je vous apporte encore à vous, je crois que Dieu nous parle en nous disant que nous devons subir réellement une rectification fondamentale de notre pensée. Parce que sinon, on va être à côté de la plaque, et si on est à côté de la plaque, eh bien, on sera totalement incapable de régner au jour où il voudra venir régner avec son épouse. On ne pourra pas régner parce qu'on sera une bande de sentimentaux. Au début de l'année 2011, j'ai décidé de donner une liste de mots qu'on devait étudier chaque mois. Donc chaque mois, on a étudié un ou deux mots, et puis on les a étudiés ici, puis ensuite dans les familles, vous les aviez étudiés vous aussi. Et pour le mois de décembre, ce sont les mots « fidélité » et « chasteté ». Pourquoi j'ai choisi ça? Sur le moment, je ne savais pas. Mais maintenant, je vois comment Dieu dirige les choses, et je me rends compte pourquoi Dieu voulait qu'à la fin de cette année, je parle de la fidélité et de la chasteté. Nous savons que Dieu attend de nous que nous lui soyons fidèles. Alors, bien sûr, ces ordonnances sont claires, elles sont là, dans la Bible. Il attend de nous que nous soyons fidèles à l'Église, que nous soyons fidèles à la famille, que nous soyons fidèles dans nos engagements amicaux, financiers, professionnels, etc. Je ne vais pas vous faire une insulte de vous dire ce que c'est que la fidélité. La fidélité, c'est quand même autre chose que simplement une vue de l'esprit. C'est quelque chose qui nous donne un certain comportement. Pour être fidèle à Dieu, il faut d'abord connaître Dieu. On ne peut pas être fidèle à quelqu'un qu'on ne connaît pas. connaître ce qui est réel au sujet de Dieu, non pas ce que la religion nous dit. Parce que la religion, écoutez, laquelle a raison? Qui a raison? Donc, chacun d'entre nous, nous sommes responsables de connaître Dieu personnellement, d'avoir une relation avec lui. Être fidèle à Dieu, c'est ne pas s'écarter de la réalité de Dieu, de la vérité de Dieu et du modèle que Dieu nous a donné. C'est ça, être fidèle. Alors, on va développer ça. Il a des exigences, ça c'est clair. Elles sont bien réelles. Je vous ai enseigné aussi que Jésus dit, voyez, Moïse a dit ça, mais moi je vous dis, puis c'est pire, hein. Ces exigences sont plus grandes encore que celles de Moïse. Alors quand on voit des chrétiens qui disent, oh mais on vit sous la grâce, on vit plus sous la loi. Être fidèle, c'est connaître ces réalités-là, ces exigences réelles, et c'est ne pas s'en écarter. Les connaître seulement, ça ne suffit pas. Il ne faut pas s'en écarter. Alors, être infidèle, par définition, c'est s'imaginer des sujets, des choses au sujet de Dieu, c'est s'imaginer des trucs, et ne pas s'écarter de ces choses erronées qu'on s'imagine être justes. C'est ça, être infidèle. Donc, des gens peuvent être très fidèles dans une religion, mais être infidèles à Dieu. Voilà pourquoi je vous enseigne à connaître Dieu. Et quelle est donc sa suprême intention? Pourquoi il a créé tout ce truc-là? Pourquoi? Si on ne sait pas. Parce que si nous ne connaissons pas ça, on ne peut pas s'y attacher. On ne peut s'attacher et être fidèle qu'à ce qu'on connaît. Et si vous ne vous attachez pas à ce qui est réel, à ce qui est vrai, eh bien vous allez vous attacher inévitablement à l'opposé, c'est-à-dire à un mensonge. Sincèrement, peut-être. Vous serez sincère. Quand vous arriverez devant Dieu, vous direz, mais je ne te connais pas. Tu as commis l'injustice. C'est-à-dire, tu as commis quelque chose qui n'était pas juste, qui n'était pas aligné selon ma volonté, selon mon plan, selon ma conception, selon mon désir. Parce que c'est pour lui qu'il l'a fait. C'est pas pour nous. Ça peut paraître sévère. Mais enfin, il faut le dire quand même, parce qu'on n'est plus des gamins. L'Église a plus de 2000 ans maintenant. Il faut pouvoir arrêter. C'est une vieille dame. Et nous avons des acquis. Nous avons appris tant de choses par les ancêtres, en lisant, en écoutant, que nous ne pouvons pas dire, écoutez, moi j'ai que 2 mois de conversion, tu as 2 mois de conversion, ben tant mieux si tu as que 2 mois de conversion, tu vas être tout de suite au clair, au net. Tu ne peux pas te comporter comme au 15e siècle où il suffisait de croire au Seigneur Jésus et soit sauvé. Après, il y a eu Wesley qui est venu, il a dit, oui, mais sans la sanctification, personne ne peut voir le Seigneur. Puis après, il y en a qui sont venus, oui, mais il y a le baptême par immersion. Puis après, il y en a qui sont venus, oui, mais il y a être rempli du Saint-Esprit. Puis après, etc., etc. Vous comprenez? Dieu a révélé petit à petit les choses, maintenant on arrive à la fin des fins. On peut connaître la suprême intention de Dieu. Connaître, c'est bien, mais encore faut-il ressembler au modèle. Je vous ai dit la réalité, la vérité, le modèle. Le modèle. Le modèle que Dieu nous a donné, c'est Jésus, dans son comportement, sa façon d'agir. Pas le Jésus gnagnou, comme on dit en Suisse, avec les pommettes roses. Non. Le vrai Jésus, celui de la Bible, Dieu attend de nous que nous soyons fidèles au modèle qu'il nous a donné. Et il nous a créés, il a fait de nous une nouvelle humanité, on l'a étudié vendredi soir, et il veut que nous ne nous écartions pas de la réalité, de sa réalité, de la vérité qui est la sienne et du modèle qu'il nous a donné. Il nous avertit, il dit voilà, attention, on arrive au bout, c'est pas le moment de s'égarer, c'est pas le moment de faire du sentimentalisme, c'est pas le moment de se décourager, de baisser les bras, de dire oh ben voilà, maintenant ça va. Non, il y a encore, Dieu est un perfectionniste, il n'y a pas d'autre réalité que lui, et tout ce qui se présente en dehors de sa réalité, eh bien c'est que charnel, voire diabolique. Alors, la nouvelle humanité que nous sommes en Jésus-Christ manifeste la constance dans son attachement, la constance dans sa relation avec Dieu, premièrement. Et puis, il est dit que, quand on lit les Écritures, Dieu ne change pas et qu'il n'y a en lui aucune variation, il y a comme c'est écrit, d'ombre de variation, c'est ça, hein? Il n'y a aucune ombre de variation. Alors, c'est ce que Dieu, si Dieu est comme ça, c'est ce qu'il attend de nous aussi, qui sommes de sa nature. Nous sommes une nouvelle humanité, lavée du péché, d'origine divine, recréée à son image. Il attend de nous qu'il n'y ait en nous aucune ombre de variation, sinon celle de faire des progrès. Ah, le seul. Mais savez-vous que Dieu fait des progrès? Vous allez me dire, comment est-ce possible? Mais bien sûr, puisque je vous ai dit que ce que Dieu veut, c'est se débarrasser du mal. Et il est prêt de se débarrasser totalement du mal. Le dernier ennemi, le dernier truc mal, c'est la mort. Il est tout prêt de se débarrasser de tout. Il n'y a plus que ça. Vous voyez, mes frères et sœurs? Donc, nous avons aussi, nous, à notre échelle, dans la création, à faire des progrès. Alors, nous ne changeons pas. Dieu ne change pas. Et nous ne changeons pas non plus, dans le sens que nous ne changeons pas notre nature, mais nous marchons de progrès en progrès, ancrés dans la réalité scripturaire, ancrés dans la vérité scripturaire, et dans le modèle Jésus, qui est quoi? Qui est l'incarnation de la réalité de ce que Dieu est. Il a dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Et vous voulez imiter Dieu, vous voulez être comme votre Dieu, ben imitez Jésus. On ne peut pas faire plus. Il a dit, je suis la vérité. Alors, ancré en lui, ne changeant pas, sinon pour faire des progrès, et à l'image de Dieu, comme Dieu, il ne doit y avoir dans notre consécration ne serait-ce qu'une ombre de variation. C'est-à-dire, notre consécration, elle ne fait pas ça. Elle monte sans aucune variation. Une telle personne, c'est ça une personne fidèle. Une telle personne, un tel disciple, c'est ça un disciple chaste. Parce que là aussi, on peut se tromper en ayant une idée religieuse de la chasteté, en répétant bêtement ce que les autres disent. Si on a une compréhension humaine de ce que c'est la chasteté, on a tout faux. Le mot chasteté, ça vient du latin, c'est un mot qui signifie une chose bien précise. Il faut savoir ce que ça signifie, sinon on peut pas faire la course à la chasteté si on ne sait pas ce que c'est déjà. La chasteté, ça vient du mot latin castitas, qui signifie pureté, rien d'autre, pureté. Un vin qui n'est pas mélangé, c'est un vin chaste. Ah, ça change beaucoup, hein? Dans la religion humaine, on pense généralement que quelque chose de chaste, quelqu'un de chaste, c'est quelqu'un qui s'abstient des plaisirs charnels, hein? Gros du sexe. Eh bien, c'est qu'une partie de la vérité, parce que vous allez comprendre, qu'est-ce que l'Écriture nous raconte? Que ceux qui s'abstiennent de ceci, ou qui s'abstiennent de cela, ou qui boivent pas de ceci, qui boivent pas de cela, qui observent tel jour et pas tel et tel autre, finalement, ils ne font quoi? Ils ne font que de glorifier leur propre chair. Et ça, c'est pas la chasteté. C'est un plaisir de la chair. De faire tout ce bien là, c'est un plaisir de la chair. Alors, on comprend plus, mais alors, faut faire comment, alors? On sait plus. Il y a des subtilités dans les choses de l'Esprit de Dieu. Moi, je suis plus que vous, parce que je vis en communauté, je ne fornique pas, je donne ma dîme, j'observe le Shabbat et tout ce qu'on peut entendre autour de nous. Il y a des nuances et il faut être à l'écoute de l'esprit. Et je vous rappelle que l'esprit ne marche pas comme ça. L'esprit, c'est un vent doux, c'est souple, c'est délicat, la voix de l'esprit. Celui qui est fidèle à Dieu, qui est fidèle dans ce que Dieu veut, qui est fidèle dans ce que Dieu a donné comme ordonnance, comme loi, comme modèle, celui-là, il est chaste. Le mot chaste, ça signifie, d'après le dictionnaire, qui ne se réalise pas physiquement ou charnellement. Je ne suis pas chrétien parce que je ne fais pas ceci et cela. Je suis chrétien parce que je suis de la nature de Dieu. Je suis né de nouveau, je suis une nouvelle création. Voilà pourquoi je suis chrétien. Ce que je fais, ce que je ne fais pas, n'a rien à voir là-dedans. Je suis un chrétien parce que je me réalise spirituellement. Vous voyez la différence? Vous voyez la nuance? Je ne peux pas être un chrétien charnel. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas. Un chrétien charnel, ça n'existe pas. Être chrétien, c'est être spirituel. C'est pas. On ne peut pas être un chrétien charnel, ça n'existe pas. Je vous parle du point de vue de Dieu. Être chrétien, c'est être spirituel. C'est trouver son bonheur en Jésus. C'est trouver sa joie en Jésus. C'est trouver sa consolation en Jésus. Et non pas dans la chair et dans ses pauvres mensonges. Voilà les consolations qu'on peut trouver C'est vrai que de temps en temps, il y a des joies. C'est sympa. Hier soir, notre frère Arthur et notre sœur Danielle sont venus, puis ils nous ont apporté une bonne bouteille suisse délicieuse, extraordinaire, bleu ciel et tout. Ils n'ont pas apporté qu'une, hein. Mais c'était, on n'a pas tout bu non plus, mais on n'a pas bu qu'une. Mais, parce qu'on était nombreux, faut tout préciser, parce que sinon, on va dire qu'on est des alcoolos, hein. Mais c'était pas une consolation pour nous. C'était un bon moment de partage, de communion fraternelle, un bon moment. Mais ça, on n'a pas cherché notre consolation dans notre pinard. Quelle horreur. Quelle horreur. Un chrétien ne peut être que fidèle. Sinon, il n'est pas chrétien, c'est tout. Ou alors, il peut être ce qu'on appelle dans les milieux évangéliques un rétrograde. Qu'est-ce que c'est qu'un rétrograde? Dictionnaire, rétrograde, qui s'oppose au progrès. Ah, vous voyez? Je vous parlais de la constance dans le progrès. Celui qui est rétrograde, il s'oppose au progrès. Deuxièmement, qui retourne en arrière. Troisièmement, qui perd ce qu'il avait acquis. Troisièmement, qui régresse. Quatrièmement, je ne sais plus, qui passe à la vitesse inférieure. Ça, c'est pour les... quand on rétrograde avec la voiture. On peut aussi rétrograder dans notre vie. Hein. Mes frères et sœurs, c'est notre suprême point de vue au départ qui fait toute la différence. Est-ce que notre point de vue, il est celui de Dieu? Quelle est notre origine? C'est ça qui détermine toute notre conception de notre vie chrétienne. Quelle est notre origine? Quel est le plan original, je ne sais plus comment on dit, le plan de Dieu? Il ne faut pas que ce mystère soit incompris. Il faut qu'il soit compris pour qu'il arrive une véritable révolution dans l'Église de Jésus-Christ. Parce que un, il nous connaissait d'avance, on l'a lu tout à l'heure. Deux, il nous a destinés, donc à l'avance, conformément à son plan, pas par hasard, pas au petit bonheur la chance, en disant, pourvu qu'il ne fasse pas trop de bêtises, parce que ça sera trop compliqué d'en arriver au point où je veux en arriver. Non, il a un plan bien précis. Troisièmement, à être transformé par l'esprit. Transformé pourquoi? Pourquoi? Pour deux choses, et il nous le dit. Pour devenir capable d'obéir à Jésus-Christ et d'être purifié par l'aspersion de son sang. Moi, ça me choque, ça. Est-ce que vous avez remarqué dans quel ordre il écrit Pierre? Oui, Pierre. C'est choquant. Un, rendu capable d'obéir. Deux, être purifié par son sang. Pas l'inverse. On pourrait penser plutôt que son esprit est venu en nous afin que nous puissions être purifiés, puis ensuite rendus capables d'obéir. Non, c'est pas des gens qui sont purs qui sont rendus capables d'obéir, c'est des gens capables d'obéir qui sont rendus purs. Quand nous recevons la révélation du plan du salut à la croix, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, un, pour nous rendre capables d'obéir à Jésus-Christ, c'est ce qu'on a lu là tout à l'heure au début, et ensuite pour que nous soyons purifiés par son sang. Nous ne sommes pas purs tant que nous ne sommes pas rendus capables, premièrement, d'obéir à Jésus-Christ. Tant qu'on n'est pas capable d'obéir à Jésus-Christ, il faut arrêter de penser qu'on est chrétien. On ne l'est pas. C'est pourquoi vous, mes frères et sœurs, vous devez connaître ce plan suprême de Dieu qui est de se débarrasser du mal. Puisque par l'Esprit, nous avons été rendus capables d'obéir à Jésus-Christ. Ça veut bien dire, ça veut dire de se débarrasser du mal. Mais qu'est-ce que c'est que le mal? Connaissant le plan de Dieu, alors l'enfant de Dieu ne cherche qu'une chose. Il ne cherche pas son salut. Il ne cherche pas sa guérison. Il ne cherche pas son abondance matérielle. Il ne cherche pas la protection de Dieu. Bien sûr que tout ça, c'est quelque chose dont on a besoin. Mais il cherche premièrement sa position avec Dieu, sa position d'acteur avec Dieu dans l'œuvre de Dieu. Et cette position, c'est une position de séparateur de bien et mal. Parce que c'est le travail numéro un de Dieu, c'est de séparer le bien du mal. Il laisse toutes ces choses qu'il a créées devenir à maturité afin de pouvoir reconnaître clairement ce qui est bien et ce qui est mal et s'en débarrasser une bonne fois pour toutes pour l'éternité. Et ses enfants sont là sur la terre, la matérialisation de Dieu pour faire ce travail. Pas juste pour être sauvé. Pas juste pour être guéri. Bien sûr que quand on est malade, on veut être guéri, on prie pour ça. C'est normal. C'est légitime. Mais c'est juste notre point de vue humain qui souffre Mais avez-vous pensé aux besoins de Dieu? C'est Paul qui a eu cette révélation. Et c'est ce qui lui a, c'est ce qui a fait, c'est ce qui a créé la séparation entre la loi et la grâce. C'est cette révélation-là. C'est ce qui a élevé le cœur de Paul à la hauteur de sa vocation. C'est cette révélation-là. Et c'est ce qu'il nous faut, mes frères et sœurs. Il ne faut pas viser plus bas. Il ne faut pas viser plus bas. En tout cas, on ne peut pas être des chrétiens libéraux. Ce n'est pas possible. On ne peut pas. Pourtant, ce qu'ils font, c'est bien. Les chrétiens libéraux, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font face aux besoins de l'humanité et ils font des œuvres sociales, premièrement. Et c'est magnifique, c'est très bien. Nous aussi, on en fait des œuvres sociales, c'est très bien, c'est magnifique et tout. Mais on ne peut pas être que des chrétiens libéraux. On ne peut pas non plus être que des chrétiens fondamentalistes non plus. Les fondamentalistes, ils reconnaissent les besoins sociaux et ils soulignent premièrement ce que Dieu a fait pour l'homme. Mais encore, voilà, c'est encore pour l'homme. Ce n'est pas pour lui. On ne peut pas non plus mettre l'accent sur la sanctification, comme on a vu dans certaines églises, comme chez les branhamistes et compagnie. On ne peut pas. Cette sorte de chrétien, il pense qu'il est primordial de se sanctifier parce que c'est l'œuvre de l'Esprit en nous, c'est la sanctification de l'homme et on doit y prendre part. Mais bien sûr, mais ce n'est pas que ça. Ils n'ont pas tort, ces gens-là. Sauf qu'il y a quelque chose qui leur échappe, parce qu'ils s'occupent de l'homme en premier. Vous voyez l'erreur, c'est là qu'elle est, c'est tout. Ce sont des braves gens, ils aiment Dieu, mais juste ils ont un point de vue qui n'est pas correct. Et Dieu, et il se peut que nous aussi, il faut qu'on réforme, faut qu'on s'aligne sur le point de vue de Dieu. Vous savez, si par exemple ici, mon point de vue est différent du vôtre, vous voyez d'autres choses que moi, hein. Moi, je vous vois, vous, je vois le chauffage. Est-ce que vous voyez le feu là-bas dedans? Non, vous ne le voyez pas. Vous voyez les vitraux qui sont derrière moi, que moi, je ne vois pas. Supposons que ce soit moi qui soit Dieu ici. Eh bien, il faudrait tous que vous veniez ici pour regarder comme moi, je regarde. Et la vision est très différente. Et pourtant, c'est le même endroit. Il ne faut pas se tromper de point de vue. Parce qu'il s'occupe de l'homme, premièrement. C'est là qu'il y a quelque chose comme un déséquilibre. Et le déséquilibre, il vient du fait qu'ils ont un faux centre de gravité. Comme tout, d'ailleurs. La Terre, elle a basculé sur sa gravité. Et puis, c'est pourquoi maintenant, il y a tout. Puis maintenant, c'est en train de se remettre en place. Ça devient terrible, hein. Et ça va devenir de pire en pire. Le centre, mes frères et sœurs, c'est Dieu, c'est pas nous. Ce n'est pas nous. Ce que je vous invite à découvrir, par-dessus tout, c'est la découverte des besoins de Dieu, du besoin de Dieu. Une prise de conscience de sa préoccupation. Je voudrais qu'on fasse une lecture toujours dans... Ça va? Vous comprenez bien ce que je dis? J'explique bien? 1 Corinthiens 2, 6, 7. Il ne s'agit pas, bien entendu, de ce qu'on appelle sagesse dans ce monde... Et la philosophie que nous prêchons, il dit bien que c'est une philosophie. Mais qu'est-ce que c'est une philosophie? Ça vient de deux mots grecs, philo et sophie, qui veut dire amour de la sagesse. Une philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Donc il y a une philosophie chrétienne, il y a un amour de la sagesse chrétienne, un amour de la sagesse divine. Il dit, la philosophie que nous prêchons n'a rien de commun avec les spéculations des penseurs de l'époque présente, dont les systèmes s'effondrent les uns après les autres. Elle n'est guère prisée auprès des grands d'ici-bas, et des personnalités influentes de notre temps, au règne si éphémère, elles ne s'inspirent pas non plus des puissances détrônées qui gouvernent le monde et qui sont d'ores et déjà vouées à la destruction. Non, la sagesse que nous exposons vient de Dieu. C'est ce grand plan divin resté jusqu'ici mystérieux et qui demeure encore caché pour le monde, mais que Dieu nous a révélé avant le commencement des temps. Il avait décrété qui nous ferait partager sa gloire. Nous sommes de son origine, nous sommes de sa nature, déjà avant d'être venus ici-bas sur cette terre. Dans notre vie prémortelle, ça avait été décrété. Et ici-bas, nous sommes comme Dieu, mais dans la création, lui il fait en dehors et dans la création, par nous, au travers de nous, la séparation du bien. Dieu remplit tout en tout, je vous disais ça vendredi, dans sa création, mais aussi en dehors de sa création. Et dans sa création, il laisse toute chose venir à maturité pour mener toute chose à son accomplissement. Vous vous rappelez que je vous l'ai dit? Pour quelle raison? Pour détruire ce qu'il n'aime pas et ne garder que ce qu'il aime. Notre Dieu d'amour est aussi un Dieu de haine. Il a aimé Jacob et il a haï Ésaü. On ne peut pas haïr si on ne sait pas ce que c'est que la haine. Il faut arrêter d'avoir une idée sentimentale de Dieu. Il faut aimer le Dieu de la réalité, celui qui nous est montré dans la Bible. Tout vient de lui. Rien ne peut exister sans que cela ne soit sorti de lui. Il est le tout puissant. Ça veut dire qu'en dehors de lui, il n'y a aucune puissance. Quand les gens parlent de la puissance du diable, c'est du pipeau. C'est rien. Le diable n'a pas de puissance. Il ne peut faire que ce que Dieu lui permet de faire. Donc, quand quelque chose arrive, à quoi ça sert de dire « Oh, le diable m'a attaqué ?» Non, Dieu a permis une chose. Qu'est-ce que je dois apprendre ? Et non pas « Oh, le diable, le diable, le diable, le diable, le diable. » C'est juste le pardon, mon Dieu, de dire une chose comme ça, mais c'est pour mieux faire comprendre. C'est le grouillot de service qui est là pour faire les basses besognes. Dieu l'utilise pour faire des basses besognes, c'est tout. Et on n'a pas à le craindre. Il faut voir toutes les épreuves, toutes les difficultés qui nous arrivent, nous l'avons vu vendredi, comme autant de chances pour nous de progresser, n'est-ce pas ce que nous avons vu vendredi? Et non pas comme des attaques du diable. Il est tout puissant et en dehors de Dieu, il n'y a aucune puissance. La puissance du mal, elle existe, mais il ne faut pas oublier qu'elle est issue de Dieu. Satan a été créé par Dieu et comme nous dit Proverbe 16:5, il a été créé dans un but, le but d'être détruit. C'est-à-dire que tout ça, c'est sorti de lui, sorti de Dieu, mis en face, laissé venir à maturité, et quand il a atteint le comble, chac, détruit. Mais c'est magnifique. Et en fait, nous sommes créés à son image, nous aussi, on a en nous des choses. Et on laisse ça, et chac, on détruit. Mais on ne détruit pas ça avec une petite cuillère, pif, 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 pif. Non, 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 non. En un clin d'œil, par notre foi, par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous, c'est non. Vous comprenez, mes frères et sœurs? C'est pas « Oh Seigneur, aide-moi ah. ». En ce moment, tout est en train de venir à maturité, tout. Aussi bien dans le bien que dans le mal, tout est en train de venir à maturité. Livrée, elle n'a plus honte du tout d'être livrée. Elle méprise le bon grain. Elle persécute même le bon grain. Livrée, elle appelle ce qui est bien mal. Mais le règne de livrée, c'est la semence du serpent, tout ça, ça touche à sa fin, mes frères et sœurs. Ça touche à sa fin. On le sait. Et nous n'avons pas à être seulement spectateurs de ça, à regarder ça, à dire « Oh mon Dieu, protège-nous, garde-nous ». Non, 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 non. Nous sommes appelés à être des acteurs, à relever les manches et à faire comme Dieu, c'est-à-dire séparer le bien du mal dans la création, ici-bas, rejetant ce qui essaie de nous lier, rejetant ce qui essaie de nous asservir. C'est ça qu'on doit faire, avec fermeté. Mais c'est magnifique. C'est exactement ce que Dieu fait pour lui-même, en nous, par nous. Heureux celui et celle qui sera trouvé travaillant à cela quand Jésus apparaîtra dans les nuées du ciel. Alors si ces choses ne sont pas vraies là, ce que je vous dis, alors expliquez-moi ce que ça signifie travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Expliquez-moi comment on peut travailler à un salut qui nous a été acquis gratuitement et qui nous a offert sans aucune condition. Notre travail ici n'est pas autre chose que de faire ce que Dieu fait, séparer le bien du mal. C'est notre ministère number one. Pierre Gilbert, il sépare drôlement le bien du mal. Il le dénonce à tour de bras, mon Dieu. Voilà, ça c'est viril. On va lire 1 Pierre 1, 4, 5. Ça va, c'est pas trop long? 1 Pierre 1, 4, 5. Écoutez ça comme c'est beau. 1 Pierre 1, 4, 5. Il nous a préparé un héritage que nul ne peut détruire ni salir, qui ne perdra ni sa beauté ni sa valeur. Il vous le réserve dans les cieux. Et tout le monde dit amen, on est tout content. Pendant qu'il vous garde, c'est-à-dire qu'il nous le réserve dans les cieux, pendant qu'il nous garde par sa puissance dont vous avez accepté l'emprise avec foi pour le salut complet et définitif. Ce salut est déjà prêt. mais il ne sera dévoilé qu'à la fin des temps. Yahou. Avez-vous accepté l'emprise du Saint-Esprit avec foi? Ou est-ce que vous êtes encore en train de vous débattre par vous-même? Est-ce que vous avez accepté cette emprise? Vous voyez, quelqu'un qui prend une emprise sur vous, ben, c'est quelqu'un qui prend une emprise sur vous. C'est le Saint-Esprit. Il vous garde par l'emprise du Saint-Esprit. Dieu ne vous garde que si vous avez accepté l'emprise de son Saint-Esprit sur votre vie. Sinon, il ne vous garde pas. C'est écrit. Il vous garde par l'emprise du Saint-Esprit. C'est formidable. Mais si nous n'avons pas accepté cette emprise dans notre vie, non, je veux faire comme je veux, eh ben voilà, il ne nous garde plus. Et on peut s'imaginer qu'on est sauvé. Ah, c'est pas interdit de s'imaginer. Mais... alors on est sauvé par la foi. Mais ce salut qui est prêt, qui était accompli, qui est prêt, n'est pas encore dévoilé. Hein? Il ne sera qu'à la fin. Pour qui sera-t-il ce salut? Eh bien pour ceux qui auront cru en Jésus. Non, pas pour ceux qui auront cru en Jésus. Pour ceux qui auront cru et qui auront travaillé comme Dieu à séparer le bien du mal. Parce qu'on ne peut pas être de sa nature et faire autre chose que ce que lui fait. On ne peut pas être de sa nature et penser autre chose que lui, ce qu'il pense lui. On ne peut pas être de sa nature. Imaginez, ma main, elle est de ma nature. Imaginez que ma main fasse ce qu'elle veut. Ow! Ça ne va pas. Tout doit se faire conformément à son plan. On a lu ça dans 1 Pierre 1-2. Conformément à son plan, pas autrement. Il y a un plan. Ça ne peut pas être conformément à notre volonté, à nos idées, si religieuses soient-elles. Non, non, c'est conformément à son plan. Alors mes frères et sœurs, que le temps qui nous reste à vivre ici soit consacré, occupé à l'action du Saint-Esprit qui vient en nous à séparer le bien du mal. C'est tout ce que Dieu nous demande. C'est tout ce que Dieu attend de nous. Et si on s'occupe premièrement des affaires de notre Père, ben, il s'occupera de nos petits bibis, nos petits machins, c'est-à-dire, excusez-moi, hein, mais notre santé, notre prospérité, et puis tous ces machins qui pour lui, mais c'est rien du tout. Mais il veut d'abord qu'on s'occupe de ses affaires à lui. Et son affaire à lui, c'est de séparer le bien du mal. C'est tout. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est pas un magnifique programme? C'est un magnifique programme, mes frères et sœurs. Dénoncer le bien, dénoncer le mal, dire ce qui est bien, affirmer, démontrer par nos paroles, par nos actions, par nos témoignages, agir, prendre position. Waouh! C'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose de glorieux, c'est quelque chose qui nous démarque, c'est quelque chose qui fait qu'on n'est pas gris comme les murs, c'est quelque chose qui fait que nous sommes la lumière du monde et non pas une espèce de machin qui clignote dans un coin et puis que les gens disent « Oh, mais c'est quoi, c'est une secte, c'est... » Non, non, c'est clair, c'est net, c'est annoncé, c'est publié, c'est montré, c'est démontré, c'est prouvé, parce que quand on fait ça, Dieu confirme par des miracles et par des prodiges. Amen. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et c'est ça que j'aime. Sinon, à quoi bon? Mais toutes les religions, toutes ces philosophies, mais il y a des choses magnifiques. J'en lis des tas de bouquins. Mais c'est vrai, il y a des idées magnifiques. Il suffit simplement de changer, à la place de mettre ce nom-là, on met Jésus, à la place de... Puis c'est tout, puis ça, mais ça devient des très belles choses. Mais tout ça, c'est... Vous savez, quand on arrivera dans le royaume de Dieu, toutes ces histoires, on n'y pensera même plus. Ça sera fini, ça sera terminé. Toutes ces belles philosophies, même notre belle philosophie chrétienne, parce que le mal n'existera plus. On passera à autre chose. Mais pour le moment, c'est ça le truc. C'est s'opposer, c'est détruire, c'est participer à cette œuvre numéro un de Dieu, détruire le mal. Quand on évangélise, on détruit le mal. Quand on chasse les démons, on détruit le mal. Mais quand on paie ses impôts, on détruit le mal aussi, parce qu'on est fidèle. Quand on paie sa dîme, on est fidèle, on détruit le mal. Quand on, toutes ces choses, quand on prend le pain et le vin, on détruit le mal. Quand on sourit à un frère, à une sœur, plutôt que de lui faire la tronche, on fait le bien, on sépare le mal. C'est facile de... Moi, j'ai toutes les raisons des fois de faire la tronche. Mais c'est tellement bête, c'est tellement mesquin, c'est des choses... C'est vrai, il faut séparer le bien du mal, faire cette volonté de Dieu. C'est s'y exercer et faire des progrès, marcher de progrès en progrès dans cela, c'est quelque chose de magnifique. Puis se sentir un avec Dieu, pas simplement dans une espèce de vue sentimentale de la chose, mais être un vraiment dans l'action avec Dieu, savoir que on n'est pas tout seul, Dieu il est avec nous pour ça, il va pas nous lâcher si on fait ça, il est avec nous là-dedans. Mais c'est magnifique, c'est magnifique. On peut être sûr que Dieu est avec nous quand on lutte contre le mal. Amen. Donc autrement, on devient des suppliants autrement. On n'a pas tellement d'assurance. Alors mes frères et sœurs, je vous invite à vous lever. Je demanderai aux musiciens de s'approcher. On va remercier Dieu. Si quelqu'un a envie de se reconsacrer ce matin en disant « Bon, ben c'est vrai, j'avais mis la vitesse inférieure, je vais mettre la vitesse supérieure, je vais reprendre ma position au Jésus-Christ et je vais me mettre à lutter contre le mal. » Déjà, premièrement, pas le mal dans les autres, mais le mal en moi-même. Hein. On commence comme ça. Hein. Et puis quand on aura fait la preuve, ben après on pourra peut-être s'occuper un peu des autres. Mais s'occuper d'abord premièrement de soi-même. Et puis, nous allons louer le Seigneur. Ne faites pas les choses publiquement, faites-les devant Dieu qui vous voit, qui vous connaît. Nous, on n'a pas besoin de savoir, mais reconsacrez-vous si vous en avez besoin. Reconsacrez-vous à notre Dieu. On va faire un chant pendant ce temps que, lequel on pourrait faire, mon frère. Tous unis dans un lien. Tous unis dans la vie.
d'un amour. Vers le Dieu.